Le PLU patrimonial s'accompagne d'un régime de travaux particulier. Bien entendu, ces particularités ne concernent pas tous les travaux réalisés sur le territoire communal ou intercommunal, mais uniquement ceux qui affectent les biens identifiés en application de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme. Les dérogations au droit commun concernent en réalité principalement le champ d'application des autorisations. Ça veut dire que certains travaux qui, d'ordinaire, n'exigent aucune autorisation, ne font l'objet d'aucun contrôle de la part de l'administration. C'est là l'un des principaux intérêts du PLU patrimonial, permettre d'accroître la surveillance des éléments répertoriés par le document, qu'il s'agisse de construction, d'espaces libres ou d'éléments paysagers. Le but est d'empêcher que ces biens subissent des dégradations irrémédiables sans que les pouvoirs publics n'en soient informés. Donc le dispositif permet à l'administration d'agir aussi en amont des projets pour conseiller les maîtres d'ouvrage sur les travaux qu'ils souhaitent entreprendre. C'est pour cette raison que le Code de l'urbanisme, soumis à déclaration préalable tous les travaux exécutés sur les constructions existantes, qui ont pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié par le PLU, que la protection porte sur la construction dans son ensemble ou seulement sur une partie de la construction, sur des éléments de décor par exemple. Le ravalement de façade d'un immeuble protégé par le PLU est aussi soumis à déclaration, alors qu'il est en principe dispensé d'autorisation. Une déclaration est aussi exigée en cas d'intervention sur un bien repéré par le PLU qui ne constitue pas une construction, par exemple une cour ou un jardin. Également, l'implantation d'une clôture dans un secteur patrimonial délimité par le PLU nécessite une déclaration. Bien sûr, si l'importance des travaux exige d'obtenir un permis de construire ou un permis d'aménager en application du droit commun, forcément, aucune déclaration patrimoniale n'est requise. L'intérêt du bien est alors pris en compte à l'occasion de l'instruction du permis. Par ailleurs, si les travaux ne sont que de simples réparations, c'est-à-dire s'ils ne modifient ni la surface, ni le volume, ni l'aspect, ni d'ailleurs l'affectation du bien, ils sont dispensés d'autorisation. Les démolitions sont un peu particulières. Elles sont soumises à des dispositions spéciales. La démolition de tout ou partie d'une construction identifiée par le PLU nécessite toujours un permis de démolir. C'est également le cas de travaux de démolition engagés dans un périmètre de protection institué par le PLU. On voit là tout l'intérêt de ce type de périmètre qui en principe fait obstacle à la destruction totale ou partielle d'une construction que l'administration n'a pas validée. Pour le reste, c'est le droit commun qui s'applique, le dépôt des dossiers, leur composition, leur instruction suivent les règles ordinaires, aucun délai particulier ne s'impose, les mêmes pièces justificatives sont requises, que le bien soit ou non protégé, l'administration pouvant d'ailleurs exiger d'aucun autre document que ceux listés dans le Code de l'urbanisme. De même, les services de l'État en charge du patrimoine, notamment l'ABF, n'interviennent pas dans la procédure. Il est d'ailleurs interdit au PLU de le prévoir. La décision intervient aussi dans des conditions habituelles, en particulier le fait que les travaux portent sur des biens dont la collectivité a reconnu l'intérêt patrimonial ne fait pas obstacle à l'intervention d'une décision tacite, qui naît en principe lorsque l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans les délais d'instruction. Forcément, des motifs patrimoniaux peuvent conduire à faire obstacle aux travaux déclarés, à refuser le permis ou à admettre des travaux sous condition en imposant diverses obligations aux porteurs de projet. L'autorité compétente aura d'autant plus de marge de manœuvre que le PLU a fait le choix d'assortir l'identification d'un bien d'un certain nombre de prescriptions, des prescriptions destinées à garantir l'intégrité du bien ou à assurer sa mise en valeur. Ainsi, par exemple, un refus de permis d'émolir est plus facile à justifier lorsque le PLU interdit expressément la destruction des biens qu'il protège. On le constate, le régime des travaux qui accompagne le PLU patrimonial est plus souple que celui dont bénéficient d'autres dispositifs de protection, qu'il s'agisse des monuments historiques, de leurs abords ou des sites patrimoniaux remarquables, mais il n'en donne pas moins aux élus un droit de regard et d'intervention tout à fait essentiel à la préservation du bâti ancien et des paysages.